On avait terminé la paracha dernière en disant que, comme Yosef l'avait prédit, quand il a expliqué les rêves du panetier et de les chansons, il est revenu à sa place. Et quant au panetier, il est mort, il a été tué. Alors il est dit, Velo Zachar Sar Hamashkim et Yosef Vaishkacheu. Et les chansons, il ne s'est pas souvenu de Yosef. Rashi dit, Bobeyom, le jour où il était remis en place, il s'en est plus souvenu, il s'en est pas souvenu. Vaishkacheu Lachar Mikan. Et il l'a oublié par la suite. On a l'impression qu'il n'a pas voulu s'en souvenir le jour de l'inauguration, parce que ce jour-là, il l'avait sûrement présent à l'esprit. Il voyait que c'était en train de se réaliser ce que Yosef lui avait annoncé, et que l'autre, il avait été pendu. Alors, pourquoi il l'a oublié? Rachidi mipne shetala bo Yosef le zachro. Uskak liot asur shteshanim. Parce que Yosef lui a demandé de se souvenir de lui, il a écopé de 2 ans de plus de prison. Shenema asher gever asher sam avshem miftacho, velo pana el re'evim, velo batach al mitzrim akruim rahav. Non. Donc, c'est un reproche qui est fait à Yosef d'avoir manqué de bitachon, il a manqué de confiance en Hachem. Il a fait confiance aux Égyptiens, à un Égyptien, qu'il n'eût pas fallu faire. Donc ça lui a coûté 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'il a dit. Quand il a demandé à les chansons de se souvenir de lui, il lui a dit Yosef lui avait dit, tu te souviendras de moi. Il a utilisé 2 mots. C'est marqué dans le verset 14 de la parasha dernière, chapitre 40, qui imschartani itra. Tu te souviendras de moi avec toi, puisqu'il viendra te faire du bien, Paro, comme j'ai prédit. Ta chéri tavlach, quand il te fera du bien. Ve'asitana imadi chesed, et tu feras du chesed avec moi. Ve'iskartani el Paro ve'otsetani, et tu me rappelleras à Paro, et tu me feras sortir de cette maison-là, de cette prison. 2 mots. D'accord? Iskartani ve'otsetani. Pour 2 mots, il a pris 2 ans. S'il avait dit un seul mot, combien il aurait pris? Non, c'est pas vrai. Il aurait pris 0. Parce que c'est normal de demander ishtadlut. On a fait une obligation de... T'as une occasion, tu peux pas ne pas l'utiliser. Mais quand tu demandes 2 mots, alors il s'avère que la première fois que tu as demandé, c'était pas parce que tu avais confiance et que tu le faisais seulement parce qu'il faut faire une ishtadlut. C'est que tu y croyais. Alors t'as pris 2 mots, t'as pris 2 ans. Mais si tu avais seulement dit 1 fois, on n'aurait pas eu de réinterprétation de ce que tu as dit. Souviens-toi de moi. Bon, c'est normal. Souviens-toi de moi, je t'ai t'es rendu service. C'est une question de la prime brisque. C'est connu. C'est... On pourrait la raconter.
Donc le mantra, c'était Otsetani,
c'est ça ? Otsetani, l'autre mot, oui. Tu me feras sortir. Il n'aurait pas dû dire tu me feras sortir. Il aurait dû dire Hachem me fera sortir, ou je ne sais pas, ou je. Ok, donc voilà, donc Miketz, Shnataim Yamim. C'est pour ça qu'on parle des 2 ans, alors qu'il vient d'en prendre 12. Il a pris 12 ans, en tout. Et on parle de ces 2 ans parce que ces 2 ans-là sont les conséquences de sa façon de procéder, à sa hauteur en tout cas, à la hauteur de Yosef, il ne fallait pas s'appuyer trop sur l'Égyptien. Comme si c'était lui qui avait le pouvoir de le faire sortir de l'atoll. Voilà. Alors, la dernière paracha, c'est une paracha qui traitait les rêves, et on continue avec les rêves. Donc, paro rêve. Pharo cholem, il rêve. Vehine omed alayor. Et voici, il se trouve au-dessus du Nil. Yor, c'est le Nil. Il est al hayor, au-dessus du Nil. Vehine, c'est, comme je vous ai déjà dit, dans les rêves. dans les rêves, vehine veut dire. La chose apparaît ici sans aucune... On ne voit pas pourquoi. Tout à coup, il est au-dessus du Nil. Sur cette phrase-là, Paro cholem veine omed alayor, l'Amek Davar dit, c'est pas très medugdak, ça veut dire la forme n'est pas très satisfaisante, cette forme... Pourquoi ? On aurait dû dire, vaya chalom paro chalom veine omed al sfatayor, qui lâche une parole à Yosef. Comme il le racontera à Yosef, plus bas. Ou misé, et parce que le texte ici ne dit pas qu'il était au bord du Nil. Et le Chazal, Bebrichit Rabba, Kavana Nifla. Chazal ont, dans le Midrash, ils ont donné une interprétation extraordinaire. Ils ont dit, Amar Paro, mi mitkayem al mi. Ani al hayor, o hayor alay. C'est-à-dire, qui est, il s'est demandé, Paro se demandait, mais qui est vraiment dominant? Est-ce que c'est le Nil ou est-ce que c'est moi? Vous vous rappelez, les pharaons, ils se prennent pour des dieux, ouais. Le dieu Ra, et le Nil est un dieu. C'est le dieu nourricier de l'Égypte. On est avant le barrage d'Assouan, c'est-à-dire on a des fameuses inondations du delta du Nil. D'accord? C'est un limon très fertile. Ça pousse tout seul. Donc le Nil est le nourricier. Et donc son problème c'est, mais au fond qui, est-ce que je suis simplement un gestionnaire de la richesse produite par le Nil, donc je suis en dessous du Nil, ou alors je domine le Nil et c'est moi qui fais que le Nil déborde. Ils ont dit là qu'il y avait l'air d'avoir un sujet qui ne semble pas directement lié avec ce dont on parle, avec le sujet. Paro cholem tamid. Paro, il rêvait tout le temps. C'est pour ça que c'est au présent. Ou Pharo Cholem. Il rêve. Il rêve tout le temps. C'est pas tout à coup il a rêvé spécialement. Pourquoi ? Parce que il rêve sans arrêt ce problème-là. Ce problème l'obsède. Qui suis-je comme divinité ? Mais en vérité, dans cette affaire-là, où il est au-dessus du Nil, en vérité, tout le problème de la fameuse famine qui va venir après l'abondance, l'Oya Ela Kedeshit Galgela Davar, Shirdu Israël, le Mitzrayim, tout ça, toute cette famine-là, elle est là seulement pour que les choses se déroulent de telle sorte que les Bnei Israël descendent en Égypte. Il faut bien accomplir la promesse qui a été faite à Abraham d'aller sortir d'Égypte. Et donc Paro, ici, il est un pion dans la démonstration, dans l'organisation du monde par Hachem. Alors, comme vous voyez, il dit que c'est, on entend dans le Midrash, si on le regarde vraiment, on voit très bien. Vine minayor, alors il y a l'histoire, il y a les vaches grasses et les vaches maigres, et les maigres qui avalent les grasses et qui n'en restent pas moins aussi maigres qu'elles étaient. Donc on voit pas de traces des vaches grasses. Ensuite il redort. Et il rêve, deuxième fois. Et c'est le même tableau, sauf que cette fois-ci, ce sont des épis. Avec, il y a des épis très chargés, très gras, si on peut parler comme ça. Et puis des autres qui sont maigrichons. Et les maigrichons avalent les gras, et ça ne les fait pas changer de format du tout. Et voilà. Et le matin, Vatipaem Rucho, et le matin, voilà, il est complètement troublé. Rachidi me cache keshet de Tocho Kipaamon. En fait, ça résonne dans sa tête comme une cloche. Ça fait boum dans sa tête en permanence. Alors il a il a ce rêve là qui le rend fou. Alors il fait venir tous les magiciens, tous les interprètes de rêves de l'Égypte, et il leur raconte son rêve, et personne ne peut l'interpréter à sa satisfaction, c'est-à-dire que il lui raconte toutes sortes de choses. Il interprète bien sûr son rêve. Mais il n'est jamais satisfait. Il sait que ce n'est pas ça. Il ne connaît pas l'interprétation du rêve, mais il sait quand ce n'est pas ça. Parce que ça ne l'apaise pas. Alors à ce moment-là, les chansons, il commence à avoir peur. Il voit que Paro devient cinglé. Il se dit, si jamais il apprend qu'il y avait dans la prison quelqu'un qui était capable d'interpréter les rêves et qui les a interprétés de telle sorte qu'ils sont réalisés exactement comme il les a interprétés, et que je n'ai rien dit, voilà ce qui va se passer. Donc il se dit, il faut que je parle là maintenant. Alors il lui dit, Etratayani Maskirayom, je rappelle maintenant. Oui. Ah, vous voulez écouter le cours? Oui, d'accord. Ok, raccrochez. Bien, bonsoir. Okay. Donc, il se dit, c'est trop dangereux, donc il décide de raconter. Il dit, voilà, tu t'es mis en colère, Paro s'est mis en colère contre moi, il m'a mis en tôle. Et là-bas, on a rêvé, le pantier et moi, dans la même nuit, et chacun a rêvé, et chacun d'entre nous a rêvé l'interprétation du rêve de l'autre aussi. Chacun a eu son rêve, le pantier il a rêvé son rêve à lui, et il avait l'interprétation du rêve de les chansons, et vice-versa. Et lui, il nous a interprété les choses, et nous savions qu'il avait raison, puisque chacun d'entre nous savait qu'il a bien interprété pour l'autre. Et on lui avait raconté les choses, il nous a tout à fait bien expliqué les choses, et les choses ont été comme il nous l'avait dit, moi tu m'as remis en place, et le pantier tu l'as tué. Ok, on n'a pas fait un pli, on a fait sortir Yosef du trou, là, la prison c'était un trou, quoi. Et on l'a rasé, on a changé ses vêtements, et il s'est retrouvé devant Paro. Alors Paro lui dit, Chalom chalamti, poter enotam. J'ai fait un rêve, personne ne peut l'interpréter. J'ai entendu dire que toi tu écoutes un rêve et tu sais l'interpréter. Alors Yosef lui dit, c'est pas moi, il n'y a que Elohim qui va pouvoir t'apaiser dans ton rêve. Viladai, ça veut dire pas moi. Ena chokhmash micheli. Yosef a dit, ça vient pas de chez moi, cette sagesse. Elohim yane, c'est Elohim qui répondra. C'est-à-dire, iten aniya befi. Il mettra une réponse dans ma bouche. Ce que j'en dirai, c'est ce qu'Hachem me dira. Et ce sera pour apaiser Paro. Alors regardez. Paro lui dit, Bechalomi, dans mon rêve, Hineni. Donc il a repris le Hine. Hineni, c'est Hine Ani. Brusquement, je ne sais pas d'où ça vient. Hineni Omed al Sfatayor. Je suis debout au bord du fleuve. Il a changé. Bon, il n'a pas dit qu'il était au-dessus du Nil. Il dit, je suis au bord du Nil. Et les vaches montent, etc. Il raconte les... Bon, ça va. Et il dit simplement que les vaches qui sont montées après, celles qui étaient maigres, il dit, j'en ai jamais vu d'aussi maigres, d'aussi moches que dans tout le pays. Je ne pense pas que Paro, on lui montrait les mauvaises vaches, quoi. On lui montrait probablement jamais les mauvaises vaches. Donc, c'est vrai qu'il ne l'a pas vu, mais est-ce que c'est vraiment... Bon, je ne sais pas pourquoi il dit ça. En tout cas, il dit, voilà, moi, j'en ai jamais vu d'aussi moche. Et les vaches maigres ont bouffé les grasses. Et puis, ça n'a rien changé. Non. Oui, je connais. C'est pas un chaud. Et dans mon rêve, j'ai vu ensuite, j'ai vu cette épi, etc. Bon, le reste c'est plus ou moins la même chose. Et j'ai raconté tout ça aux magiciens, aux interprètes, etc. Et personne ne m'a raconté, personne ne m'a répondu de façon apaisante. Alors Yosef lui répond. Le rêve de Paro, tu as rêvé deux fois, mais c'est le même rêve deux fois. Et pourquoi est-ce que tu rêves deux fois? Parce que et asher ha-Elokim osé, ce que Elohim fait, il le fait savoir, il le raconte à Paro. Ce rêve, c'est un récit divin qui t'est envoyé. Voilà, c'est une information. C'est-à-dire, Elohim t'envoie une information. Les sept vaches grasses et les sept épis, en fait, ce sont sept années d'abondance. Les maigres, sept années de famine, qui vont suivre les années d'abondance. Et c'est ce que je t'ai dit. Asher ha-Elokim oseh hera et paro. Je te l'ai dit déjà, je te répète. Ce qu'Elokim fait, il l'a montré, il le montre à Paro. Il te montre, voilà. Ça veut dire, voilà, sept années viennent qui sont des années d'une très grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Puis ensuite viendront sept années de famine qui vont faire oublier complètement toute l'abondance et la famine va complètement détruire le pays. Ah, et pourquoi c'est répété deux fois? Kinachon adavar meima Elohim. Parce que Elohim l'envoie tout de suite, là. Ça va arriver tout de suite. Mais Maher Elohim l'a soto. Hachem l'a déjà décidé et il se dépêche de le faire. Et on, voilà. Bon, maintenant, fin de l'interprétation du rêve. Normalement, une fois que Yosef a dit ça, il devrait se taire. D'accord? Paro lui a demandé d'interpréter et il a interprété, c'est fait. Alors, Yosef fait ici. Alors, il y a encore un point. Bariam, Rabbeinu Bechaye, il explique pourquoi c'était sept. Pourquoi cette année. Il dit que pour les Égyptiens, il disait que, bon, pour eux, ça représentait le nombre des planètes qui influençaient la Terre. Et les destinées humaines. Et les années d'abondance et de famine, d'avance, annoncées comme ça, d'une manière tout à fait spectaculaire par les rêves de Paro, montrent que ces planètes, elles vont obéir à Hachem aussi. Obéir, parce que le chiffre 7, étant le chiffre sacré de la nature, était démystifié, dénoncé aux yeux des païens, comme étant un simple instrument entre les mains d'Hachem. C'est pour ça que Yosef évoque régulièrement le nom de Elohim, c'est-à-dire celui qui a créé le monde. Il dit effectivement, Hachem et toutes ces planètes que vous adorez, en réalité, elles sont soumises à Elohim. Alors, je vous ai dit, Yosef fait quelque chose d'étonnant. Vous imaginez, un type, Paro, c'est pire que Trump, hein. Donc, Yosef se met à donner des conseils à Paro. Il est fou. Il n'a pas été invité à donner des conseils. On lui a donné la page d'interpréter les rêves, mais on ne lui a jamais permis de donner des conseils. Et pourtant, il y va, il continue.
Il sort plus de prison.
Pardon ?
Il sort plus de prison.
Oui, donc, il sait ce type-là qui sort de prison, qui donne des conseils à Paro. Véata, et maintenant, Yire Paro. Que Paro désigne, voit, Ish Navon Vechacham, un homme sage, et qu'il l'installe pour diriger le pays d'Égypte. Et on va mettre le pays d'Égypte pendant les 7 années d'abondance, eh bien, on prélèvera un cinquième. Et on va rassembler toute cette nourriture durant les années d'abondance. Tout ça, ça sera au pouvoir de Pharaon. Ça dans des silos, dans des villes, etc. Et ensuite, cette nourriture-là, elle va permettre de faire face aux années de famine. Donc, voilà. Non seulement il lui dit ce qui va se passer, mais il lui dit aussi comment il va falloir réagir. Alors, au lieu que Pharaon le mette en prison pour avoir osé lui donner des conseils, la chose est apparue très très convenable, beaucoup plus à Paro et à tous ses serviteurs. Et donc Paro leur a dit, est-ce qu'on va trouver un autre bonhomme qui a l'esprit divin en fait? Donc il dit à Yosef, quand Elohim t'a dit tout ça, bon, il n'y a personne qui est capable, personne n'est plus sage que toi. Donc c'est toi qui seras intendant de ma maison, et tout mon peuple respirera littéralement avec toi, par toi. Il y aura seulement le trône divin au-dessus de toi. Alors, voilà, il lui dit, voilà, je t'ai donné tout le pays d'Égypte, il lui a enlevé son anneau, on connaît ça, il l'a donné à Yosef, c'était le sceau avec lequel, donc ça veut dire que quand Yosef signait quelque chose, il signait Paro, il ne signait pas Yosef, puisqu'il lui a donné son sceau. La même chose qu'avec Aman, avec Mordechai, à chaque fois, les papiers sont signés Paro, mais c'est manipulé par quelqu'un d'autre, évidemment. Ensuite, il l'a déguisé, il lui a mis tout un attirail. On l'a mis sur le char, le deuxième char royal. Et on a publié, on a publié qu'il était, c'était lui le maître de l'Égypte. Et alors, Paro lui a dit, voilà, c'est moi Paro, mais... En dehors de toi, personne ne lèvera le petit doigt, on dirait en français, ni la main ni le pied, dans tout le pays d'Égypte. Et il lui donne un autre nom, il l'appelle Tsofnath Paneach, et il lui donne une femme qui se trouve être Osnath, la fille de Potiphéra, Cohen On. Et donc Yosef, voilà, il yotse al Eretz Mitzray.
Osnath, c'est pas la fille d'Inan ?
Alors c'est ça. Alors, elle est la fille adoptive de Madame Potiphar. On revient tout de suite là-dessus. Pourquoi Paro était tellement content? Bon, c'est sûr d'avoir quelqu'un qui interprète le rêve et qui, en réalité, te donne une façon de... Alors, premièrement, ce qui va se passer, c'est que Paro, à ce moment-là, d'après les Midrashim, bon, c'était le roi d'Égypte, mais il y avait plein de gens qui avaient des terres, qui avaient des esclaves, qui avaient des barons, si vous voulez. Lui, il était le roi, mais il y avait tout un tas de barons, je ne sais pas comment ça s'appelle en égyptien, si je le sais en français, donc des ducs, des barons, des comtes, des machins, des gens qui avaient du pouvoir aussi. Mais ce que va faire Yosef, c'est-à-dire qu'il va ramasser toutes les richesses de l'Égypte et on va mettre tout ça sous le pouvoir de Paro. On va voir par la suite qu'ils ne sont pas spécialement contents, là, tous les Avadim. Parce que finalement, ils vont être obligés de se vendre à Paro. Parce que dans la famine, eux, ils n'auront pas de quoi faire face à la famine, parce que, bien qu'ils ont entendu le conseil de Yosef, donc eux aussi, à leur échelle, ils vont faire la même chose. Ils vont prendre un cinquième de ce qui va se dans leur duché, ils vont mettre ça dans des silos, mais Hachem a fait en sorte que ça pourrisse chez eux. Chez eux, ça a pourri. Donc ils ont été obligés de venir demander à manger à Paro. C'est-à-dire à Yosef. Et Yosef va leur dire, ok, je vous donne à manger, mais vous me vendez les terres. Et après, il n'y a plus rien. Et après, eux, ils deviennent métayers de leurs propres terres. D'accord ? Et puis après, il n'y a pas assez. Alors, ils se vendent eux-mêmes. Ils sont obligés de se vendre eux-mêmes. Donc, si vous voulez, il y a un phénomène de concentration du pouvoir chez Paro. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce qui se passe, c'est que, vous avez vu, Paro lui dit, ok, je te donne tout. Rak akise egdal mimeka. Il n'y a que le trône royal qui sera au-dessus de toi. Ça veut dire quoi? L'abondance, elle va venir d'où? Du Nil. Bon. Donc, Yosef, ce qu'il va faire, il va gérer l'abondance du Nil. La richesse, c'était le Nil. Ça n'est pas poussé n'importe où, c'est le Nil. Et donc, Yosef, il est l'intendant, c'est lui qui gère le Nil. Gérant le Nil, il libère Paro de toute relation, de tout problème. Paro, il n'a rien à voir avec les problèmes de l'intendance. Il est au-dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Yosef, il a interprété le rêve tel qu'il était, où Paro se voyait au-dessus du Nil et pas au bord du Nil. Bien sûr que Paro n'osait pas dire qu'il se voyait au-dessus du Nil, parce que les gens auraient dit, mais il se prend pour qui? Il se prend pour une divinité plus haute que le Nil, alors que le Nil était évidemment les sources de tout le bien de l'Égypte. Donc il n'a pas osé dire ça. Mais c'est ce qu'il voulait. Et l'interprétation de ce que Yosef lui propose de faire, c'est exactement ce qu'il voulait. C'est pour ça qu'il était, lui, archi content. Personne ne sait pourquoi il est si content. Mais il est si content parce que lui, il finit par être au-dessus du Nil. D'accord, finalement, c'est un esclave hébreu qui gère le problème du Nil. Ça rabaisse le Nil, quoi. Et lui, il est tout en haut. Donc, alors, Yosef, il a visiblement, partout où il passe, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a toujours presque rien. Quand il est chez Potiphar, ben, il a tout, Potiphar, sauf sa femme. Sauf la femme de Potiphar. C'est ce qu'il lui dit, j'ai tout. La seule différence entre Potiphar et moi, c'est toi. Si maintenant je couche avec toi comme tu le demandes, il n'y a plus de différence entre Potiphar et donc je ne peux pas faire une chose pareille. Et là maintenant, il a Paro au-dessus de lui, c'est tout. Et en vérité, Paro est au-dessus de lui, mais même Paro, il ne sait rien de l'organe. Enfin, à la limite, ce n'est pas lui qui a les clés des silos. Bon, c'est Yosef qui a les clés de tout. L'autre, il a le Paro, il a le trône. Ça se trouve, on le révère, il est déifié de toute manière, alors il est très haut. Dans la hiérarchie des divinités égyptiennes, il est situé très haut. Et c'est ça qui lui fait plaisir, en fait. C'est comme ça qu'il voit les choses. Alors il lui donne un nom et il lui donne une femme. C'est-à-dire, voilà, à lui, il va pouvoir, comme ça, il pourra dire à Yosef, d'une certaine manière, c'est moi qui t'ai fait. Je veux dire, c'est moi qui t'ai donné le pouvoir, je t'ai donné ton nouveau nom et je t'ai donné une épouse. Et il se trouve que l'épouse en question, c'est sa nièce. Parce que Vous vous souvenez que Dina, la fille de Léa, il s'est passé quelque chose d'assez tragique. C'est que quand Yaakov a rencontré Esav, Yaakov ne voulait pas que Esav voie Dina. Parce qu'il a compris que si Esav voyait Dina, il va la demander en mariage. Et il s'est dit, mais je ne pourrais pas refuser. Donc il l'a mis dans une boîte. Et Chazal dit que ce n'était pas une bonne solution. Parce qu'Hachem lui a dit, tu n'as pas voulu la donner Béhéter. Tu n'as pas voulu la donner de façon permise. Elle va être prise Béhissou. Et elle est prise par le fameux Shrem là-bas, qui est lui la viole, mais qui tombe amoureux et qui veut l'épouser, en fait. Et cette... alors bon, il se passe ce qui s'est passé, les fils de Jacob, ils massacrent Shrem et toute la ville, etc. Ce qui est en soi un scandale. Pardon ? Non, non, c'est Shimon et Lévi. C'est intéressant parce que Yaakov, quand il apprend que Dina a été violée, il ne fait rien. Il attend les fils. Quand les fils viennent, il leur raconte. Et les deux, Shimon et Lévi, ils massacrent tout le monde. Après qu'on ait... On leur a dit, il est venu faire sa demande, Shrem. Alors il a dit, on ne peut pas, il faut que vous fassiez la Mila. Ils font la Mila tout de suite. Tout de suite, d'accord. Et bien sûr qu'eux, ils pensaient qu'ils allaient mettre la main sur tous les biens de Yaakov aussi. Ils n'étaient pas, des saints, les gens de Shrem. Mais les autres, sont les deux fils, là, ils sont allés, non seulement ils ont tué Shrem, ils ont récupéré Dina, mais ils ont tué toute la ville. Ils ont pris tout le butin. Alors, qu'est-ce que Yaakov dit ? Il ne leur dit pas, c'est pas bien ce que vous avez fait. Il leur dit, vous êtes fous. On est une petite minorité. Si tous les alentours là, ils se liguent contre nous, ils vont nous détruire complètement. Donc, il ne dit rien du tout sur la conduite qui est absolument anormale de... Alors, eux, ils répondent, qui pourrait être une réponse pour la question qu'il n'a pas posée, enfin, pour la remarque qu'il n'a pas faite, mais qui est une réponse pour ce qu'il a dit. Il dit, mais est-ce qu'on doit laisser traiter notre sœur comme une prostituée? D'abord, est-ce que c'est vraiment comme une prostituée? Donc, il l'a prise, c'est vrai, mais il veut l'épouser, donc où est la prostitution là-dedans? Alors, il va falloir attendre les brachot de Yaakov. Yaakov va attendre d'être quasiment à l'article de la mort quand il va bénir ses enfants. Il va dire à chacun sa place dans le clan d'Israël. Il va dire, moi, Shimon et Lévi, je veux rien avoir à faire avec eux. C'est des assassins, je veux rien voir. À ce moment-là, il leur dit. De même qu'il dit à Reuven qu'il lui enlève tout. Il ne lui avait pas dit avant. Ça veut dire... Il leur dit... C'est dans Parchat Vayechi. Pardon ?
On peut déposséder un aîné ?
Déposséder ?
Parce qu'il en reste tout, c'est
vrai. Oui, oui, c'est vrai. Ben on peut, il l'a fait.
Oui,
c'est vrai. Autrement, il dit Shimon Velevi Achim. Shimon et Lévi sont des frères. C'est au chapitre 49. C'est le verset 5. instruments de violence sont leurs armes, à leur dessein que mon âme ne s'associe point, qu'à leur assemblée ne se joigne pas mon honneur, car dans leur colère ils ont tué un homme, et dans leur arrogance ils ont abattu un taureau. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les disséminerai dans Jacob, je les disperserai en Israël. C'est ce que Jacob dit à ses fils. Et on dit comme ça, à l'égard de Shimon et Lévi, il était dans un dilemme semblable à celui qu'il avait à l'égard de Rouven. Et Rouven, il avait peur que, comme il allait tout lui enlever, que Rouven parte chez Esav. L'association des aînés victimes des victimes de Jacob, quoi. Alors il dit, devait-il, à cause de la sauvagerie de leurs mœurs, refuser sa bénédiction à deux enfants dont les descendants allaient faire partie de la nation d'Hachem? La droiture et la rectitude de son caractère le firent hésiter, et il décida une fois de plus d'accorder sa bénédiction, mais d'en remettre l'attribution entre les mains du futur.
On le sait, ça, dans le texte.
Pardon ? Ce que j'ai lu, là, c'est un peu en vert, là, c'était la traduction.
Il n'y a que de la
rouvre. Oui, bien sûr.
Il n'y a que des émissions.
Donc, il a quand même... il les a pas... Il les a pas destitués complètement. Ils sont nommés quand même. Ils sont nommés dans les brachot. Tu me diras, ils sont nommés... Mais Reuven aussi est nommé, mais... C'est-à-dire, en fait, c'est des bénédictions, c'est plutôt de dire à chacun la place qui est la sienne. C'est ça, en fait, la bénédiction. Savoir où on est. Où on est dans l'économie du clan Israël, en fait. Donc, en tout cas... Ils ont fait ça, et il y a une fille qui est née du viol de Dina. Et pour des raisons que je ne comprends pas vraiment, je n'ai pas vu d'explication, sauf de dire que ça ne lui plaisait pas qu'elle soit par là, qui est la trace du viol en quelque sorte là. Yosef l'a exilée, l'a envoyée en Égypte. Pas Yosef, Yaakov, pardon. Son père, Yaakov, l'a envoyé en Égypte. Il lui a écrit une amulette pour la protéger. C'est comme ça que Yosef a reconnu Osnat. Il a reconnu l'écriture de son père dans l'amulette. Elle s'est retrouvée en Égypte. Elle a été adoptée. Peut-être que Yaakov avait... arranger les choses pour qu'elles soient adoptées directement, je ne sais pas. Il y a des midrashim, là, je ne me souviens pas ce qu'ils disent. Et elle se trouve donc... Madame Potiphar, elle croit qu'elle va avoir une descendance avec Yosef. Mais c'est sa fille adoptive qui va l'avoir. Qu'elle a vu juste qu'il y avait une histoire de descendance, mais ce qui était trop près d'elle, elle ne le voyait pas. C'est-à-dire, tout près d'elle, trop de neguillotes, trop de conflits d'intérêts, en quelque sorte, elle croyait que c'était elle. Elle se trompe. De même manière que Korach, il va se tromper, il pense que j'ai sûrement raison contre Moshe, puisque dans ma descendance, il y a le prophète Shmuel. Il ne voit pas qu'en fait, lui, il va être... out, et c'est ses enfants qui, je ne sais pas exactement pourquoi ils ne savaient pas les siens, mais en tout cas c'est ses enfants qui auront cette descendance. Shmuel. Et donc là, il n'a pas pu le faire, il n'ose pas le faire ces problématiques de déshériter quelqu'un, etc., parce que Ensuite, il faut le rencontrer tous les jours. S'il avait fait ça au milieu de sa vie, ben, il aurait rencontré tous les jours un Reuven qui l'en veut, etc. Des Shimon et Lévi qui lui en voudront de ce qu'il pensait d'eux, que c'est un assassin, etc. Donc il s'est dit, je ne fais pas ça, je le ferai juste au moment de ma mort. Et ce modèle-là, Moshe Rabbeinu va faire la même chose. Moshe Rabbeinu aussi va faire les brachot, va donner les brachot au Bnei Israël seulement juste avant sa mort. Parce que là-bas, par exemple, Moshe Rabbeinu, il ne donnera pas de territoire à Shimon. Shimon, c'est la tribu de Shimon avec Zimri, l'histoire de Zimri. Pinchas a dû le tuer, etc. Celui qui a publiquement, contre Moshe Rabbeinu, qui a eu des rapports avec sa Midianite. Moshe Rabbeinu ne leur a pas donné de territoire. C'est Yehuda qui a donné une partie de son territoire à Shimon, pour que Shimon ne soit pas sans territoire. Mais Moshe ne leur a pas donné de territoire. Pourquoi ? Parce que Lévi se sont rattrapés au moment de l'histoire du veau d'or. Quand Moshe a dit, tous ceux qui sont pour Hachem, qu'ils viennent vers moi, et la tribu de Lévi est venue, et Shimon, ils se sont enfoncés avec l'histoire de Zimri encore. Donc c'est ça la différence de trajectoire, en quelque sorte, entre Shimon et Lévi. Bon, alors on revient à notre affaire. Donc, Yosef va épouser Osnat. On dit que, quand c'est marqué que Paro, après l'avoir déguisé, changé de nom, etc., que Yosef il a fait le tour de l'Égypte, enfin le tour de la capitale probablement, et on dit que sur les murailles, il y avait toutes les jeunes filles qui étaient là et qui auraient bien voulu épouser ce brave jeune homme-là. Alors, c'est marqué dans le Midrash qu'elles ont toutes jeté leur adresse e-mail. Elle n'avait pas d'adresse e-mail. Elle a jeté son amulette. Et donc, l'amulette, il a vu Yosef l'a ouverte et il a... C'est marqué que c'est Paro qui la lui a donnée, mais enfin Yosef, il l'avait déjà repéré, il s'est débrouillé pour que ce soit elle qu'on lui donne en mariage. Et comme je vous ai déjà dit, je répète, c'est quand même important de savoir, les enfants que Yosef va avoir avec Osnat vont devenir deux tribus. C'est-à-dire Jacob va les faire monter du rang de petits enfants à enfants. Ils vont être au même niveau que leurs oncles. C'est Yaakov qui fait ça, oui. J'ai dit Yosef, excusez-moi, c'est Yaakov qui les prend, qui les fait monter à la place de Yosef. Donc il crée tout un problème parce que du coup, ils sont 13 et pas 12. Parce qu'il remplace Yosef par deux. Il y avait 12 fils, maintenant il y en a 13. 13 tribus. C'est pour ça que dans la Torah, toujours quand on fait des décomptes, on fait un décompte sans les Levim. Et ou alors on fait un décompte avec la tribu de Yosef, où on prend les deux en même temps. Ça marche jamais, on ne peut pas... Et en plus, alors, ces deux-là, ils ont... C'est que, bon, je répète ça tout le temps, mais ça m'impressionne quand même. C'est que Ephraim et Menaché sont les deux seules tribus qui ont... Ils ont dans leur ascendance à la fois Rachel et Léa. Ils ont Jacob, le père, et ils ont l'ascendance Rachel par Yosef, qui est le fils de Rachel, et ils ont l'ascendance Léa par Osnat, qui est la fille de Dina, et Dina, la fille de Léa. Donc, c'est les seuls qui ont tout. Et c'est peut-être pour ça que quand on donne une bénédiction à nos enfants encore aujourd'hui, on ne dit pas que Hachem fasse que tu sois comme Issachar et Zvouloun ou comme Yehuda et Naphtali, mais qu'il y ait toujours Ephraim et Menaché. C'est étonnant, c'est-à-dire que c'est eux qu'on utilise dans la bénédiction. Eux qui ont un statut à part. Bien.
C'est le même lien qui est entre Ephraim et Menaché, Issachar et Zvouloun.
Non, ah, non, ils n'ont pas tout à fait comme ça, mais c'est pas très loin, puisque en fait, Issachar, c'est celui qui se consacre à l'étude. Pardon, oui, et donc, Ephraïm, a priori, c'est toujours Menaché qui est toujours l'interprète, etc., auprès de Yosef. Donc, qu'est-ce que fait Ephraïm à ce moment-là? La grande tribu dans le schisme, la grande tribu du royaume d'Israël, c'est Ephraïm. Le successeur de Moshe, c'est Yoshua de la tribu d'Ephraïm. Le roi, donc, au début du royaume d'Israël, c'est Yerovam qui est de la tribu d'Ephraïm. Alors tout de suite le pasouk dit voilà Vayetse Yosef El Eretz Mitzrayim, donc après qu'il l'ait nommé, qu'il lui ait donné une femme, dans la fin du verset 45, alors le Netziv dit que ça veut dire où il est sorti, où est-ce qu'il est allé. Il allait, on dit El Eretz Mitzrayim. Alors il dit, il est allé pour regarder, pour réfléchir, comment il allait répartir regarder toutes les villes, tous les territoires, les gens, etc., pour nommer là-bas des surveillants à toutes sortes de niveaux, pour assurer la récolte, que la récolte arrive bien chez Paro. Et à ce moment-là, on nous dit, voilà, il a 30 ans. Il a quitté, je vous rappelle, il a donc quitté son père et sa mère à 17. Et on dit ici que pendant les 7 années d'abondance, on a ramassé petit à petit, donc toujours avec selon cette règle du 20%, du cinquième, on a ramassé des récoltes qu'on a mises de côté pendant toutes ces 7 années-là. Et donc là, Yosef a ramassé un blé pas possible, comme le sable de la mer. On n'arrivait même pas à le compter. À ce moment-là, on mélange effectivement, le texte mélange le côté professionnel de Yosef, maintenant le côté familial. Au milieu, on dit... וליוסף ליולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב, אשר ילדה לו אסנת, בת פוטיפרה, כהן עוד. יוסף ילד סמולה, deux enfants. Ces enfants, il les a eu avant la période de famine. Parce qu'il y a une halakha qui dit qu'en principe, pendant la période de famine, on n'a pas le droit d'avoir des enfants. Ce que je ne comprends pas très bien, si vous voulez, c'est pourquoi la Torah, elle insiste pour nous dire que Osnat, on sait qu'on vient de dire qui était Osnat, mais on répète de nouveau ici qu'elle est la fille de Potiphar, le prêtre de l'idole On. Hein. C'est comme Akhenaton, Eton. Yosef a nommé le premier Menaché et il lui donne ce nom en disant voilà, je le nomme Menaché parce que Nashani Elohim et Kol Amali et Kol Bet Avi. c'est un peu étonnant, parce que il lui dit, bon, il le nomme comme ça, en disant que, voilà, bon, Hachem, quelque part, m'a fait oublier ma maison. Il m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. C'est totalement scandaleux, quoi. Il nomme son fils en rappel de ce que moi, j'ai oublié ma maison paternelle. C'est pas un titre de gloire. Comme le rabbin qui dit ici, mais qui ne se sentirait pas indigné d'une telle attitude? Yosef ne serait alors qu'un homme sans cœur et un fils ingrat. Il faut rappeler que le mot Nashani, donc Nun Shin Hei, ne veut pas seulement dire oublier, mais aussi être créancier. Si bien que Nashani peut aussi vouloir dire « Hachem a fait de ma peine et de ma famille mes créanciers ». C'est-à-dire qu'il a transformé mes peines et les mauvais traitements de la part de ma famille en instruments de mon grand bonheur. Je ressens ainsi ma dette de gratitude à l'égard de mes misères et de ma famille. Ça, c'est Hirsch qui retourne la situation. Alors, ça c'est le Menaché, c'est l'aîné. Vechem Hacheni, Kara Ephraim. Ki Hifrani Elokim Beretsoni. Ephraim, c'est la chambre prix, Pyria, fructifié. Quelque part, il m'a fait fructifier. Donc, il met le nom dans le nom de ses enfants, il met le souvenir de son passé, de sa famille. Le fait qu'en dépit de la situation prestigieuse qu'il a en Égypte, malgré tout, il continue à considérer ce pays comme celui de sa misère. Donc, il a une volonté de rester attaché à ses origines. Il refuse l'assimilation à la culture égyptienne. Et les noms qu'il donne à ses enfants et qui lui rappelleront constamment son devoir de fidélité à sa famille et à la Terre Sainte. Alors, de nouveau, ici, on va avoir un Bechor. Et Yosef va le faire passer après son petit frère. On dit toujours Ephraim et Menaché. Alors que normalement, si on respectait l'ordre de naissance, on devrait dire Menaché et Ephraim. Un problème, évidemment. Yosef, il est vice-roi d'Égypte. Pourquoi il n'envoie pas un messager à son père pour lui dire qu'il est vivant? Qu'est-ce qui l'en empêche? Il fait ce qu'il veut en Égypte. Est-ce que c'est pas totalement scandaleux qu'il laisse son père dans l'ignorance de ce qu'il est vivant? On peut expliquer ça. Ça s'explique avec les rêves de Yosef. Joseph comprend que, tout à coup, les rêves qu'il a eus, les rêves apparaissent comme étant prémonitoires. Et donc, quelque part, il veut les faire réussir, ces rêves. Or, dans ces rêves, il y a la prosternation, il y a le fait que ses frères, son père, sa mère n'est plus de ce monde,
d'abord les frères.
Oui, d'abord les frères. Il faut que, s'il leur dit qu'il est vivant, qui il est, bon, ils ne vont jamais se prosterner. Ils vont dire, on est les frères du roi, enfin du vice-roi. Alors, il ne le dit pas. Donc, ça veut dire, c'est tellement important pour lui, il voit ça comme une voie, il voit ça comme une prophétie. Et comme s'il était en charge de faire réussir la prophétie. On ne voit pas très bien... Hein, en quoi cette prophétie, si vous voulez, elle devait être réalisée? Parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est que Jacob descende en Égypte. En tant que vice-roi, quand il va se révéler, il va lui dire « descends ». Ouais. Et il va descendre. Il ne sera pas, il voudra pas, etc., mais finalement il va descendre. Donc s'il lui avait dit « descends en Égypte, descends, je suis vivant, descends », comme il le lui dira par la suite. S'il avait dit un peu plus tôt, qu'est-ce que ça aurait changé? On veut qu'il descende en Égypte, c'est tout. Il n'y aurait peut-être pas eu les prosternations. Or, dans le rêve, il y avait la prosternation. Est-ce que c'est tellement important? Dans l'histoire, c'est tellement important.
Ça n'a rien à dire, finalement.
Oui, on ne voit pas très bien en quoi le fait de se prosterner ou pas a changé. En plus, il n'arrivera pas à faire que son père se prosterne devant lui. Il va essayer de tromper son père pour que son père le prenne pour Paro et qu'il se prosterne en pensant que c'est le Pharaon, mais Jacob ne se prendra pas au piège et il ne va pas se prosterner. Donc il y a de toute manière une partie du rêve, mais ça c'est normal qu'une partie du rêve ne se réalise pas. Il y a toujours des dvarim betelim dans tous les rêves, des choses qui ne veulent rien dire. Mais la vérité, est-ce pas même de dire effectivement ce que peut-être même est-ce que cette prophétie dont il pensait qu'il fallait la dire, il l'a dite, il a raconté cette prophétie à ses frères. Donc il n'a pas retenu une prophétie qu'il aurait dû dire et qu'il n'a pas dite.
Oui, ça paraît comme une espèce d'amour propre.
Ouais, c'est un pas terrible, quoi. Alors, le Netziv, dans un peu plus bas, même bête tête, il va donner une théorie. Le Netziv, il commente, quand les frères sont arrivés, lui, il les a reconnus, mais eux, ils ne l'ont pas reconnu. Non, parce qu'il était aussi... Il avait changé, ils ont quitté, c'était un petit jeune homme quand il les a quittés. Maintenant, il a plus de 30 ans, et il a probablement, à l'égyptienne, il doit être fardé, ou avoir un masque, ou je ne sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir. Puis, il ne pouvait même pas penser que c'était lui. Je veux dire, comment penser? Lui, il savait que, quand ils sont venus, il savait, il y avait des espions, il savait très bien qui venait, il savait que ses frères allaient descendre, puisqu'il savait très bien qu'il y aurait la famine là-bas, ils allaient venir. Tous les gens, tous les pays environnants, ils sont tous venus en Égypte chercher à manger. Donc il a dû mettre des caméras pour savoir quand ils arrivent, et il a su quand ils arrivaient. Mais alors maintenant, après quand ils se prosternent, alors le Netziv dit eux, ils ne l'ont pas reconnu. Et à ce moment-là, il s'est rappelé de ses rêves. Ils sont là devant lui, ils se prosternent devant lui, ils se rappellent des rêves. Odia Katouv, Shalom Ahmad Nekima, Chaz Beshalom, Italech Imam Be Akshut Kazot. Il a été très sévère, très dur avec les frères. Il les a accusés d'être des espions, il leur a, etc. C'est pas, alors le motif dit, c'est pas qu'il était en train d'essayer de se venger de ce qu'il lui avait fait. Mais le Pasouk a l'air de dire que c'est Mishum Sheniska Chalomot Shem Kein Nevoa. Il se souvient de ses rêves qui sont comme une forme de prophétie. C'est comme ça que le Abba Banel explique. Le premier rêve, voilà, ça y est, c'est accompli. Les frères se sont prosternés devant lui. Et donc, il doit essayer de faire en sorte que le deuxième rêve se réalise également. Et lui, il dit une drôle de chose, il dit que s'il ne le faisait pas, alors il serait comme un prophète chez Viter al-Divre Atzmo. Un prophète qui, en quelque sorte, contredit, enfin, il... Bon, c'est pas comme le Ramban, hein, c'est ici. Et c'est pour ça qu'il voudrait arriver à la réalisation du deuxième rêve qui concerne son père, en fait. Alors, toute une discussion dans l'Agmara, dans Sanhedrin, si quelqu'un qui pourrait faire réaliser son rêve et il ne le fait pas, est-ce que c'est comme s'il n'allait pas jusqu'au bout de son obligation de prophète? Donc ça, c'est son idée. Le Nessiv, il essaie de dire les choses pour récupérer les situations, en fait. Il propose de dire que il se sent obligé d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Mais c'est étonnant parce que même le rêve lui-même, dans ce cas-là, en quoi il est important? Ok, les fils, il fallait qu'ils se prosternent. En quoi c'est nécessaire qu'ils se prosternent? Qu'est-ce qu'on va gagner? Il est roi, voilà, il est vice-roi, donc. Il est quasiment roi d'Égypte. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est quoi? Eux, ils ne l'ont pas reconnu comme roi. Donc il faut qu'ils se prosternent devant lui, ils se prosternent comme devant le roi d'Égypte. Après, ils vont se rendre compte qu'ils se sont prosternés devant lui. Mais est-ce que ça a une valeur, cette prosternation, alors qu'on se trompe? Ils se sont prosternés devant lui parce qu'ils pensaient que c'était le roi d'Égypte, mais pas en tant que Yosef. Maintenant qu'ils comprennent que Yosef est roi d'Égypte, alors bon, peut-être, il faut dire. Ok, on a compris que, voilà, il s'agissait de c'était ça le rêve. Eux aussi comprennent le rêve, quoi.
Ils se sont prosternés deux fois.
Ils se prosternent chaque fois qu'ils viennent devant lui, ils sont obligés de se prosterner.
Non, c'est du vrai. Ça leur permet de reconnaître simplement que le rêve l'interprétation du rêve était vraie, et qu'ils se sont trompés. Hein.
Oui, mais enfin bon, même si c'était pas prosterné, il voit bien qu'il est le roi. Bon, mais eux se soient prosternés, bon, d'accord, ça s'est fait quasiment. Il n'a rien fait de spécial. Il aurait pu effectivement tout de suite leur dire je suis Yosef, et vous n'avez pas besoin de. Mais bon, ils sont prosternés dès qu'ils sont entrés. Il a même pas le temps de commencer à parler qu'il s'était déjà vraisemblablement prosterné. Mais ensuite, cette recherche de la réalisation du deuxième rêve, c'est-à-dire de la descente, que son père vienne aussi. Alors son père est venu, il l'a reconnu comme roi, bien sûr, mais il était quand même son fils. C'est-à-dire, les rapports étaient quand même un rapport de fils à père. Et pas de sujet à roi. La vérité, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, finalement, cette réalisation des rêves, qu'est-ce qu'elle va apporter, qu'est-ce qu'elle va nous donner. Alors, est-ce que c'est un préalable pour le Machiav Ben Yosef, si, d'après la théorie, qu'il y aura un Machiav Ben Yosef? Est-ce qu'il fallait... Le Machiav, c'est un roi. Donc, il faut qu'il soit reconnu. Alors, est-ce que c'était une façon de le reconnaître? Mais on ne voit pas qu'il se soit jamais prosterné devant Yehuda. Ils l'ont pris comme roi, mais il ne se prosternait pas devant lui. Bon, mais Kitsour, là-dessus, je ne peux pas vous aider, j'en sais rien. Je ne sais pas. En tout cas, il a tout ramassé comme il l'avait prévu. Les 7 années d'abondance ont pris fin, et ont commencé les 7 années de famine. Donc il y a une famine comme pas possible en Égypte et dans toute la région. Et Vaïtsak Ha'am El Paro. Le peuple demande à Paro, donne-nous à manger. Paro leur dit, allez chez Yosef, faites ce qu'il vous dira de faire. Alors Yosef a ouvert lentement, il a ouvert les réserves, mais la famine a continué de plus belle. Toute la terre, en fait, on a l'impression. Donc tout le monde vient chez Yosef, pour acheter du blé. Alors Yaakov lui aussi s'aperçoit que il y a du blé en Égypte. Alors il dit, allez acheter du blé en Égypte. Il les envoie tous, sauf Binyamin, évidemment. Et ils sont parmi la foule qui vient acheter du blé. Yosef est au pouvoir, c'est lui le nourricier de tout le peuple. Les frères de Yosef arrivent, ils se prosternent devant lui. Lui, donc, comme on a vu, il les voit, il les reconnaît. Et il reste totalement étranger à eux. Et il leur parle durement. D'où venez-vous? Et il dit, on vient de Canaan pour acheter à manger. Et Yosef se rappelle de ses rêves, comme on a vu. Il leur dit, pas du tout, vous êtes des espions. Vous venez voir la faiblesse du pays pour essayer d'envahir le pays. Il dit, pas du tout, on est venu vraiment acheter à manger. Et alors, comment il commence à parler? Disent, on est les enfants d'un seul bonhomme. Et on est sincères, on vient seulement, on n'a jamais été des espions. Il dit, non, pas du tout, vous êtes venus espionner. La preuve, c'est que vous êtes entrés par toutes sortes de. Par toutes les portes. Mais en fait, ils sont entrés toutes les portes parce que ils ont compris, déjà à ce moment-là, ils savent. Ah, il y a Yosef qui doit être en Égypte, peut-être qu'on peut le récupérer. Parce que le ramener chez leur père, ça serait quand même une bonne chose. Ça permettrait. Pas oublier que leur père, il porte un deuil, donc il ne sort pas littéralement. Alors ils disent, non, pas du tout, on est 12 fils, fils d'un seul père, en Canaan. Le plus jeune est encore chez notre père, et il y en a un qui n'est pas là. Alors Yosef dit, ouais, c'est bien ce que je disais, vous êtes des espions. Alors, il y a un midrash que Rashi rapporte et qui dit, ok, vous êtes celui, le fils, que le frère qui a disparu, qui n'est plus là, si vous le retrouviez et que on vous dise que la rançon est énorme, une rançon, vous voulez le racheter? Alors ils ont dit, oui, on paierait la rançon. Et si on vous dit que on ne vous le rendra pas, quelle que soit la somme que vous proposez, alors il dit, on est venu pour ça, pour tuer ou d'être tué ou être tué. Alors il dit, c'est bien ce que je disais, vous êtes des espions. Vous êtes venu tuer les gens de la ville. Moi je suis un magicien, avec ma coupe là, et je vois que deux d'entre vous ont détruit toute une ville. Une ville, la ville de Shrem. Donc il dit, c'est Shimon et Lévi, quoi. Donc j'en sais beaucoup plus que ce que vous croyez sur vous. Alors, on va faire un test. Le test, c'est, est-ce que vous allez amener votre petit frère? Envoyez un d'entre vous qui ramène le frère. Et vous, vous serez emprisonné. On verra bien ce qu'il en est. Sinon, si vous ne le ramenez pas, c'est que vous étiez des espions. Donc on les a remis en tôle, 3 jours. Au bout de 3 jours, il leur dit, écoutez, je crains Elohim, il leur dit. Donc si... On ne va pas faire comme ça. On va prendre un seul d'entre vous qui va rester comme prisonnier, et vous, tous les autres, vont ramener la nourriture chez votre père. Et si vous ramenez votre plus jeune frère, alors on verra que vous aviez raison, et vous ne mourrez pas. Personne n'est parti. Non, il n'a pas. D'abord, il a mis en tôle tout le monde. Après, il a changé d'avis. Au lieu d'envoyer, mettre en tôle un, ils libèrent tous. Ils en gardent un. Ils gardent évidemment Shimon, parce que à cause de l'affaire, il sait très bien que si Shimon et Lévi ensemble, ils sont capables de mettre l'Égypte à feu et à sang. Alors ici, on va s'arrêter avec ça, mais. Yomru ish el achiv, ils se sont dit l'un à l'autre, on est fautif. On est fautif au sujet de notre frère. On a vu combien il a souffert, combien il nous a supplié, et nous on n'a pas écouté. Ces ennuis-là, ils nous viennent à cause de ça. C'est-à-dire, ils ne regrettent pas la décision qu'ils ont prise. Ils regrettent de ne pas lui avoir fait grâce quand il a supplié. Il regrette d'avoir été cruel à son égard. C'est de la cruauté de ne pas le sauver. Voilà, vous lui avez donné une leçon, une super leçon, le condamné à mort, le fichu une sacrée trouille, maintenant vous pouvez le libérer, il va arrêter de raconter des trucs sur vous. Alors Reuven, il dit... Oui, je vous avais bien dit, ne faites pas de faute avec cet enfant, et vous m'avez pas écouté. Voilà, maintenant, on nous réclame son sang. Eux, ils savent pas que Yosef entend ce qu'ils disent. Parce que Yosef, il avait installé, évidemment, un traducteur, c'est ce qui était son fils Menaché, d'ailleurs, qui traduisait, disons, de l'hébreu, ou l'araméen, je ne sais pas ce qu'il parlait comme langue, de l'hébreu en égyptien. Comme ça, il faisait comme s'il ne comprenait pas l'hébreu, lui. Mais il les comprenait très bien.
Il
n'y
a pas besoin d'un traducteur.
Ah non? Non, mais c'est juste pour leur faire croire que lui, il ne comprend pas.
Ah. Et Joseph, il connaissait son petit frère ? Vous le connaissez ?
Bon, il devait savoir qui il est, mais... Oui, il l'a vu, il a quitté, il avait 17 ans, lui. Donc, le petit était déjà un petit gosse. Et en fait, il ne savait pas qu'il l'entendait, puisqu'il avait mis un traducteur entre eux, donc pour leur faire croire qu'ils ne comprenaient pas. Il s'est détourné d'eux, il est allé pleurer à côté. Il a pris Shimon, il l'a emprisonné à leurs yeux, devant eux. Et puis voilà, et ensuite il va mettre... On va remettre dans le sac de chacun l'argent qu'ils ont amené. Ils reviennent. Donc, on leur remet leur argent comme si... Bon, ils n'ont rien dépensé pour tout cette... Ils ont des sacs de blé, ils ramènent, mais ça ne leur coûte rien. Ils vont être complètement effrayés quand ils vont voir que... Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi l'argent est chez nous, de nouveau? Là, ils reviennent et Jacob dit, ben, vous l'avez ramené quand vous irez la prochaine fois chercher à manger. Ramenez-le, ça doit être une erreur.
C'est bizarre que... Ils leur disent, Joseph dit à ses frères que s'ils craignent.